Bonjour. Pour ce deuxième podcast sur l'altitude, je voudrais conjuguer deux types de compétences pour aborder ce sujet. À la fois mon expérience en Himalaya et celle sur les skis, issue des formations neige et avalanche de l'ANENA que j'encadre durant tout l'hiver. J'espère ne pas trop vous bousculer par ce mélange des genres et une présentation un peu formelle. Alors j'aimerais commencer ce sujet sur l'acclimatation par une petite histoire d'altitude. Nous sommes en route pour le Manaslu au printemps 2009 et à Bintang à 3590 mètres. Lorsque je fais un tour de table avec l'ensemble des participants sur notre état physique, 8 personnes sur 10 sont en souffrance. Alors certains ont des problèmes gastriques, d'autres ont mal à la tête. L'un est tombé d'un banc et s'est froissé les côtes, et un dernier n'a pas pris ses médicaments avec lui alors qu'il souffre des cervicales après une chute à moto. Ce qui signifie que 90% des alpinistes de mon groupe, qui pourtant visent un 8000, sont HS après seulement une semaine de trek. C'est simplement incroyable. Une conclusion immédiate, c'est que l'acclimatation ne se construit pas à partir du camp de base, mais bien avant, dès le départ de Katmandou et même en France, et surtout durant tout le trek, très progressivement. Ça semble tellement évident. Mais que faire concrètement pour construire une bonne acclimatation, pour arriver au dernier camp avant l'ascension ou au sommet du col en pleine forme, pleinement disponible et heureux de notre réussite, plutôt qu'à l'arrache avec un mal de tête infernal? Alors osons une première question. C'est quoi au juste un trek en altitude ou une expé? Eh bien, c'est la même chose. Comme on disent les Népalais, same same but different. C'est comme faire les fondations d'une maison avec 5 étages pour passer le Larke Pass ou une autre avec 8 étages pour le Manaslu. Faire de bonnes fondations est indispensable. C'est aussi le projet d'un groupe qui se déplace dans un milieu hypoxique qui est par nature dangereux. C'est donc une organisation sociale qui prend des décisions avec des facteurs humains non négligeables et des interactions multiples entre le groupe et le leader, entre les participants, entre participants et le leader. La taille du groupe joue bien sûr un rôle dans ces interactions, ainsi que la posture du leader. Il faudrait parler aussi de la manière d'envisager ce projet. Alors pour moi, j'allais dire c'est simple, il est participatif et co-construit. Et c'est la notion de faire ensemble. Alors je pense qu'il est indispensable de faire un lien avec la réflexion actuelle sur les prises de décision en matière d'avalanche. Pour l'instant, cette dynamique se construit doucement et il est bien difficile de la partager et de l'enrichir, faute de contributeurs. C'est certainement l'une des premières fois que j'aborde ce sujet. Et je vous remercie d'avance de votre indulgence pour ce contenu en devenir. Alors, en m'inspirant de la névrologie pratique pour l'acclimatation, j'ai systématiquement intégré, durant le trek ou la marche d'approche, des temps formels, de briefing et de débriefing, des checks et maintenant des rétex. Alors il s'agit de structurer notre intervention en fonction de nos déplacements qui progressivement va nous confronter à l'altitude avec des briefings réguliers. Alors pour augmenter les compétences, ça c'est la notion de connaissance des participants, pour favoriser de bonnes pratiques et construire une expérience qui soit non traumatisante, mais surtout une conscience de cette réalité. Alors, concrètement, pour que le groupe prenne les bonnes décisions pour éviter un œdème, mais aussi, et c'est ça une valeur ajoutée inestimable, qu'il prenne plus de plaisir à être en altitude et à évoluer en groupe. Voilà. Mais alors, c'est quoi ces briefings? Alors, moi, je les appelle dans mon jargon les petits messages on the road. Ce sont de courtes interventions formelles, 15 minutes, à un moment dédié où tout le monde est attentif. Et le contenu en est essentiellement pratique. Alors plusieurs lieux bien identifiés structurent ces rendez-vous. Concrètement, ce sont des étages caractéristiques au cours de ce long voyage vers le sommet ou du trek. Alors on retrouve avant le voyage, à Katmandou, le premier jour de marche, à l'arrivée vers 3000 où l'environnement hypoxique commence à se faire sentir, au camp de base bien sûr, pour préparer la première nuit au camp 1, pour gérer les efforts de portage et les rythmes de progression, et puis avant le col ou le sommet. Alors à chaque briefing est associé un thème spécifique, un mode d'échange interactif peut d'ailleurs être mis en place, car il n'y a généralement rien de révolutionnaire dans ce propos. C'est juste du bon sens. Alors, les trois premiers messages se situent avant le voyage, et pour nous, ils ont été abordés durant la réunion préparatoire avec l'ensemble du groupe du Manaslu. C'était augmenter ses connaissances théoriques sur l'hypoxie, par exemple avec la formation Ifremont, en lisant, avec des vidéos, avec des échanges, mais c'est aussi consolider son capital santé, et c'est l'idée de s'entraîner. Encore faut-il savoir comment, pourquoi, etc. etc. Et aussi, ce qui est rarement souligné, faire une pause juste avant le départ pour arriver le plus détendu, le plus reposé possible. Puis, alors à partir de Katmandou, ces messages expriment globalement l'attention à développer pour tous les détails de la vie quotidienne qui peuvent améliorer ou rendre plus difficile notre acclimatation. Sur le contenu de ces briefings, alors nous voici sur la terrasse de Panma. Alors j'y suis un peu chez moi, mais le cadre est surtout fantastique, avec le grand stupa de Bodhnath juste en face de nous. Ah, effectivement, ça change de Tamel. Nous sommes plus que des touristes à Katmandou, et il est sur la qualité du voyage pour préserver notre santé. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Alors ça veut dire que nous ne sommes pas des touristes, mais sans jugement de valeur, bien sûr, car nous sommes des touristes. Mais nous sommes beaucoup plus que cela, car nous sommes des touristes à pied et en partance pour un sommet ou un trek en altitude. Il s'agit donc de préserver notre capital santé de base, simplement par une attention de tous les instants à tous les petits détails de la vie quotidienne. Et en premier lieu, de ne rien faire pour absorber les fatigues du voyage. Alors pas la peine de courir aux quatre coins de la ville, hein, Durbar, Pachu, Bodhnath, allez hop, un petit coup de soyambou pour être certain d'être explosé à la fin de la journée. Mais en fait, il est difficile de vendre du rien pour les agences. Et c'est tellement valorisant d'avoir fait quelque chose. Alors pour moi, ce temps à Katmandou est plutôt un sas de décompression où il est urgent de ne rien faire. Juste mieux préparer ses affaires et flâner tranquillement à proximité immédiate. Alors au vu des conditions sanitaires, hein, la qualité de l'air, de l'eau, il est peut-être pas très judicieux. Il est judicieux justement de limiter le plus possible la durée de ce séjour à Katmandou et de prévoir de faire du tourisme au retour. Alors après, bien sûr, on sera beaucoup plus disponible et acclimaté à la vie népalaise. Concrètement, il s'agit de ne pas boire ou manger n'importe quoi, de ne pas faire d'expérience locale, alors exotique, c'est tellement fun de manger dans la rue ou dans une gargote. Bref, il est important de faire attention à soi. Et durant le transport pour Bissar, le Sirdar a comme mission de prévoir des arrêts pour touristes, et donc forcément plus cher, où l'hygiène est la mieux prise en compte. Il ne s'agit pas de récupérer d'emblée un problème gastrique qui va nous invalider pour le reste du voyage. Et durant ce long transport routier jusqu'au départ de la mare d'approche, il s'agit de rentrer dans sa bulle, de se préserver, d'essayer de profiter de l'instant, même si ce n'est pas vraiment agréable. Alors moi, je déteste ces transports. Mais bon, le plus difficile est d'arriver à vivre ce trajet éprouvant en mode zen. Accueillir tout ce qui arrive avec bienveillance. Une belle phrase, mais parfois bien difficile à vivre, tellement c'est la galère. Alors ce jour-là, notre départ a été très matinal, à 5h du mat, pour arriver à sortir de Katmandou avant les premiers bouchons. Allez, nous allons faire un petit déj sur la route, et un dalbat nous attend à Bessissar. Juste le temps de charger les jeeps et d'enseigner sur Darapani. Alors heureusement, la route elle est de plus en plus carrossable et on met de moins en moins de temps. Alors au lodge de chez Lakpa, à Darapani, un petit message on the road s'impose pour préparer notre première journée de marche. Et là, le message c'est « Nous sommes plus que des randonneurs dans les Alpes et il s'agit de porter une attention à la qualité journalière de notre randonnée ». Avec cette difficulté de la durée. 3 jours plus tard, tout s'est bien passé. Nous sommes maintenant à Bimthang. Alors vous vous souvenez, Bimthang, c'est le lieu du précédent rendez-vous. Là, j'espère, avec ces quelques petits messages, on a peut-être réussi à limiter les dégâts. Alors à Bintang, on est à plus de 3000 et il nous faut nous préparer pour le passage du col. Et le check de l'état de santé de chacun est indispensable pour décider de la suite des étapes. Le sujet du briefing est directement lié à l'environnement hypoxique qui va maintenant faire partie de notre quotidien. Et le message, c'est « Nous sommes plus que de simples trekkers ». Et il porte sur la qualité de la marche, c'est une approche de la marche consciente dont l'enjeu est de s'économiser. Il est alors question de respiration, de protection des voies respiratoires, de la qualité du posé de pied, du rythme, du hara aussi. Voilà, tous ces thèmes qui sont développés pour la marche consciente. Voilà. Ensuite, première nuit en altitude et en bivouac à l'Arképhélie pour couper la traversée du col en deux. Et là, le sujet, c'est nos nuits sont les lieux de l'acclimatation. Et ça porte sur tous les petits détails qui permettent d'améliorer nos nuits. Comme par exemple, la boîte pipi. Alors, au village de Samdo et à Samagaon, là, nous avons un peu de temps pour aborder d'autres notions, comme par exemple le diamox et la médicalisation, l'utilisation d'un caisson, ou alors le rôle du cerveau dans un environnement hypoxique. Là, c'est en lien avec les dernières recherches sur les neurosciences. Bien sûr, on y retrouve les apports de la psychologie positive, la communication non violente et la méditation. La méditation, par exemple, pour faire la nuance entre la souffrance et la douleur. Et pour la communication non violente, ça a un rapport avec cette irritabilité qu'on éprouve ou qui se développe en attitude. Voilà. Et pour le dernier message, qui est presque le plus important, c'est « Nous sommes directement responsables de notre mal-être en attitude ». Alors bien sûr, ça peut paraître politiquement pas très correct, mais c'est la réalité. Alors là, voilà, je vous propose l'histoire de l'épée de Damoclès et des fils à ne pas couper. Elle conclut cette première semaine en altitude, et cette semaine, c'est la plus difficile de tout le voyage pour le corps. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment y porter toute notre attention. Alors, je vais donc vous raconter cette histoire qui sert de référence commune au groupe. À la fois pour construire une attention personnelle, je fais attention à moi et à mon épée de Damoclès, mais aussi collective, chacun fait attention à l'autre, car si l'autre a un problème, les répercussions de sa prise en charge vont impacter l'ensemble du groupe. Alors voici l'histoire de l'épée de Damoclès. Alors tout le monde visualise facilement une épée de Damoclès, c'est une vraie épée, suspendue au-dessus de nos têtes, et elle représente un œdème cérébral ou pulmonaire, et nous pouvons donc clairement en mourir si elle se décroche. Alors il faut se représenter cette épée maintenue en haut par une multitude de fils. Au début du voyage, il n'y a aucun risque, car nous avons beaucoup de fils. Mais au fur et à mesure que nous faisons un acte contraignant pour notre corps, nous coupons un fil. Mais pas de souci, tant que nous en avons suffisamment. Mais nous ne savons pas combien nous en avons initialement, ni combien il nous en reste. Et tant qu'il en reste au moins un, rien ne se passe. Mais si nous coupons le dernier, la conséquence est immédiate. Alors que faire? Eh bien, simplement éviter le plus possible, à chaque instant, de couper un fil. Et il est si facile de les couper. Aller un peu trop vite, vivre une étape trop longue, être mal équipé, dans le mauvais temps, porter un sac trop lourd, mal s'hydrater, s'énerver après quelqu'un, se pencher rapidement en plantant la tente, s'angoisser au sujet de l'altitude, etc., etc. Et heureusement, nous avons cette capacité magique de renforcer ou de reconstituer des liens supplémentaires si tout se passe bien et si nous faisons vraiment attention. Et c'est pourquoi il faut s'économiser au maximum, ne surtout pas couper le fil. Pour des alpinistes ou des randonneurs normaux, en fait, l'altitude n'est pas le lieu de l'entraînement, ni le lieu de l'effort, ni de la compétition. C'est le lieu d'une conscience encore plus affûtée à tous nos actes. Alors, est-ce que cette épée de Damoclès vous parle? Alors, pour les Népalais, j'ai même une autre histoire, The Story of Old Buffalo, qui les fait mourir de rire et devenir écarlate. Alors, à partir du camp de base, nous quittons notre panoplie de randonneurs pour nous transformer en alpinistes. Et c'est une autre histoire qui commence, avec de nouveau une attention encore plus précise sur la gestion du portage et des déplacements. Pour cela, il nous faut calibrer nos efforts en sachant que nous ne sommes pas tous égaux en attitude. Alors on pourrait aussi aborder d'autres notions comme le bi-firming, bien sûr, c'est-à-dire sans aux et avec le moins possible de cordes fixes. Mais surtout, il s'agit de nous impliquer tous dans cette ascension avec l'équipe népalaise. Alors on pourrait parler aussi de progression continue ou de la slow attitude. Mais bon, si vous voulez, on en parlera plus tard. Mais pour moi, c'est vraiment des notions importantes pour la qualité de nos histoires en attitude. Et actuellement, où nos voyages lointains sont remis en question, le seul argument possible, c'est de dire « Oui, on va loin, mais nous faisons tout pour que la qualité de notre histoire soit maxima. » Et c'est l'expé de notre vie. Alors bon, continuons notre ascension. Alors bien sûr, il y a d'autres messages à faire passer. Et là, on change de registre, parce que au-delà du message, il y a des éléments à contrôler. Donc, on parle des checklists à mettre en place. Alors, par exemple, il y en a un à chaque matin au petit déjeuner quand on est tous ensemble. Et c'est le checklist « Comment ça va ce matin ?» Alors, il y en a un autre, c'est le soir. Alors, quand chaque binôme est dans sa tente, un peu séparé, parce que c'est difficile en attitude d'avoir des lieux pour se regrouper, et ça s'appelle la tournée des popotes. Et c'est l'un des guides, ou le guide, ou moi, ou les Népalais, qui s'en chargent. Mais ça peut être aussi les participants. Après, il y en a un autre qui est très important, c'est le check avant le sommet. Et ça, c'est le grand départ. Et puis, quand on est arrivé au sommet, ouais, c'est super. Ouais, sauf qu'il faut redescendre. Et là, il y a un check qui s'appelle pour préparer la descente. Et celui-là, il est récent parce qu'en fait, il est lié au rétex de cette année 2019. Alors là, ça, c'est une belle transition sur les débriefings. Alors, les débriefings, ouais, c'est compliqué à faire parce que c'est chiant, quoi. Et pourtant, les débriefings, c'est la clé de la progression. Parce que à chaque palier, il est nécessaire de préparer la suite. Alors, il faut qu'il soit simple et court. Alors, pour valoriser ce qui fonctionne et le consolider, ou quand quelque chose coince, pour y apporter une solution. Alors, il s'agit vraiment de trouver un équilibre entre rien, ce qu'on fait d'habitude, et trop. Pour les rendre le plus léger possible. Et puis, peut-être systématique. Alors, les retex, ça veut dire retour d'expérience, sont un outil très puissant pour approfondir l'analyse d'un presque accident ou d'un accident, pour construire des mesures correctives, et qui peuvent être utilisées directement à court ou à moyen terme, mais aussi pour consolider l'expérience de chacun et construire une formation ultérieure. Et c'est vraiment un outil indispensable à construire ensemble et surtout à partager. C'est ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent. Mais alors attention, hein, quelle claque en retour pour le leader, hein, parce que généralement c'est souvent lui en première ligne, et c'est généralement son attitude ou ce qu'il a mis en œuvre qui va être décortiqué et analysé. Mais bon, c'est vraiment intéressant. Alors je vous invite à lire ceux du Lugila de cet automne sur mon site, vous allez voir, ça déménage un peu. Alors bien sûr, il faudrait compléter, détailler beaucoup plus tout ça pour le rendre plus compréhensible, mais l'enjeu pour le leader est de partager cette réflexion et cette pratique avec chaque participant d'un trek ou d'une XP. Car en fait, chacun est acteur de ce processus. Pour moi, c'est ce que j'appelle le faire ensemble en expédition ou en trek. Alors, c'est une manière de rendre nos décisions plus fiables, mais également de prendre plus de plaisir en attitude, en augmentant le niveau de connaissance, d'implication et de conscience de chacun. Alors, pour le leader du groupe, qu'il soit guide ou accompagnateur, bénévole ou professionnel, waouh, c'est un vrai challenge, mais c'est vraiment très très intéressant. Voilà, je vous souhaite un bon trek, une bonne expé, et puis à bientôt pour un prochain podcast, peut-être la suite de celui-ci. À bientôt.